Donc, livre des juges, nous sommes au chapitre 6, hein, nous commençons, c'est un des récits aussi les plus longs, hein, qu'on a dans le livre des juges, celui de la vie de Gédéon. Donc, on avait déjà vu, hein, la dernière fois, l'appel de Dieu à exercer cette fonction de juge en Israël. Hein, c'est lui que l'Éternel avait choisi pour délivrer le peuple, hein, de ce règne de terreur que Madian et les autres complices, hein, de Madian faisaient régner sur le territoire. Et comme on avait vu, Gédéon n'était pas forcément un candidat idéal. C'était pas quelqu'un qui lui-même se voyait comme étant capable de faire quoi que ce soit pour son peuple ou pour l'Éternel. Mais lorsque l'ange de l'Éternel lui a fait part de son choix, hein, pour être le libérateur d'Israël, on voit aussi que Gédéon, comme beaucoup de personnes, on peut dire qu'il a cherché des excuses ou des raisons de ne pas pouvoir servir dans cette capacité-là. Peut-être même, hein, il s'est dit que bon Dieu, il doit se tromper, ça peut pas être possible que moi je puisse faire quoi que ce soit. Mais une fois qu'il avait compris qu'en face de lui c'était l'ange de l'Éternel, eh bien là il avait compris que c'était pas n'importe qui non plus qui l'appelait à être ce libérateur. Et on voit donc Gédéon qui va s'incliner devant le Seigneur, devant sa volonté, qui va bâtir un autel et adorer le Seigneur à ce moment-là, et puis attendre de savoir ce qu'il devait faire. Et donc on arrive au verset 25 de chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Donc, en poursuivant, hein, cette étude sur la vie de Gédéon, on va voir justement comment le Seigneur l'a préparé, hein, pour la mission qu'il attendait. Hein, c'est pas tout de suite qu'il a été envoyé affronter Madian et les autres peuples. Il y a eu, hein, ce moment où, eh bien, l'Éternel a dû préparer son serviteur à être celui, hein, qui serait le libérateur pour son peuple. Et donc on voit l'Éternel qui guide Gédéon à travers une série d'étapes, si on peut dire, de choses précises à accomplir qui vont le mener, hein, bien plus tard justement, à accomplir des choses plus grandes encore pour la gloire de Dieu et pour le bien de son peuple. Et donc dans ce passage, oui, on voit Gédéon faire quelque part ce premier pas de foi. On le voit prendre position contre la fausse religion, hein, qui maintenait son village et sa famille dans un esclavage spirituel. Mais ce que nous avons ici, encore une fois, c'est la manière dont Dieu a préparé son serviteur pour, eh bien, des missions plus importantes et plus grandes encore. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est regarder à ce passage et voir au moins 3 choses concernant Gédéon et concernant cette situation ici que nous venons de lire dans le chapitre 6. D'abord, ce que l'on voit, c'est que Dieu va éprouver sa foi. C'est-à-dire que Dieu, il a appelé son serviteur, mais Dieu, il va également éprouver la foi de ce serviteur-là. Et il va lui donner un ordre bien spécifique, un ordre bien précis, Et même un ordre très personnel, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'il lui dit de prendre le jeune taureau de son père et un second taureau de 7 ans, de renverser l'autel de Baal, d'abattre le pieu sacré qui se trouvait sur cet autel, et ensuite de bâtir un autel pour l'Éternel et d'offrir ce second taureau en holocauste, eh bien, on a ici quelque chose de bien précis que Gédéon devait faire. Mais c'était aussi un moyen pour l'Éternel de préparer, d'enseigner son serviteur que quand on va servir l'Éternel, quand on va répondre à son appel, on va être amené à prendre des décisions qui peuvent être très difficiles. Lorsque Dieu s'adresse à Gédéon, c'est la nuit même où il l'a appelé, et lorsque Dieu impose sa main sur la vie de Gédéon, il ne perd pas de temps. La même nuit, il lui dit, ben voilà maintenant ce que tu vas faire pour moi. L'Éternel, il soumet alors Gédéon à cette épreuve. Délivrer Israël de Madian exigeait de lui non seulement de remporter une victoire militaire, mais avant toute chose, il s'agissait de remporter une victoire spirituelle. Il s'agissait de faire disparaître les causes de l'idolâtrie qui avait conduit l'Éternel à livrer son peuple aux mains des Madianites. Donc lorsque l'Éternel donne cet ordre précis à Gédéon, eh bien, c'est quelque chose de personnel que Gédéon va devoir faire. Il faut se rappeler que Baal, c'était le dieu cananéen de la fertilité. Les Cananéens croyaient que cette divinité était responsable du succès ou de l'échec pour leur récolte, pour leur troupeau. Et ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir justement pour adorer Baal et s'assurer de ses bénédictions. Ce pieu sacré dont il est question ici dans ce passage, on l'appelle aussi un poteau ou un mât d'Achéra. Achéra, c'était la déesse, compagne de Baal. Elle est également appelée Astarté parfois. Et on sait que lors de ces pratiques païennes, religieuses, dans ce culte envers cette divinité, beaucoup de choses immorales étaient pratiquées. Mais voilà, on voit ici dans l'ordre, le commandement que l'Éternel donne à Gédéon, on voit une mission qui est d'abord en 3 étapes. La première, donc, démolir l'autel de Baal. Ensuite, construire un nouvel autel, qui serait consacré à l'Éternel. Et ensuite, apporter un sacrifice en l'honneur de l'Éternel sur ce nouvel autel construit, sur, ce qui restait comme reste de cet autel détruit. Mais donc l'épreuve ici pour Gédéon, consistait à faire ce choix personnel pour l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'était, comme on vient de le lire, c'était celui de son père, cet autel. C'était l'idole de sa famille. Et donc là, il doit faire un choix de rupture avec l'idolâtrie de sa propre famille, celle de son village. Et donc c'est une rupture qui va s'avérer être entière, qui va s'avérer être concrète, qui va s'avérer être visible aussi aux yeux de Dieu, de tous. Et Dieu veut que, justement, lorsque nous voulons le servir, lorsque nous voulons l'adorer, que les choses ne soient pas cachées. Ce soit quelque chose qui soit visible, quelque chose qui soit vivant. Il y a un ordre ici qui a un double objectif spirituel. D'abord, il s'agissait de montrer à Gédéon et à tous que l'Éternel est le Dieu vivant, vrai, tout-puissant. Et que Gédéon donc allait renverser cet autel de Baal. Et face à cela, Baal serait totalement impuissant déjà pour empêcher Gédéon de le faire. N'est-ce pas? Deuxième chose, c'est aussi que Dieu voulait que Gédéon sache qu'il serait avec lui, oui, mais quelle que soit aussi l'opposition à laquelle il serait confronté, oui, l'Éternel serait là, mais il lui a montré aussi que tu es quand même capable de faire des choses par toi-même. C'était un petit pas ici pour Gédéon par rapport à ce qu'il devrait faire plus tard. Mais ce choix qu'il devait faire, ce choix de rupture avec l'idolâtrie de sa famille, de son père, de son village, c'était un choix important. Et j'imagine, comme pour beaucoup d'entre nous, souvent il y a des choix qui sont difficiles à faire à cause de l'attachement que nous avons pour ces choses. Mais chaque fois que l'Éternel donne un commandement à obéir et que nous y obéissons, nous l'exécutons pour sa gloire, eh bien, il va pouvoir montrer ainsi à ce monde perdu qu'il est vraiment Dieu, qu'il est digne d'être adoré et qu'il est capable de changer, de transformer les vies comme celle de Gédéon, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'il va employer de telles personnes pour accomplir sa volonté, eh bien, nous comprenons aussi que nous ne sommes pas seuls hein, dans ces situations où Dieu nous envoie et nous demande de faire quelque chose. Nous ne sommes pas seuls parce que l'Éternel est là. Mais aussi le fait que pour Gédéon, ben, c'était quelque chose qu'il était capable de faire par lui-même. La principale raison tout de même hein, pour laquelle cet autel devait être démoli, c'est que ça constituait un obstacle spirituel. C'est-à-dire que tant que cette idole était présente là, tant qu'il y avait ce culte, ce service à Baal qui était pratiqué là, ça serait constamment un obstacle pour Gédéon et tous ceux qui le suivraient pour pouvoir libérer hein, son peuple de l'oppression des Madianites. Tant que cet autel païen n'était pas détruit, eh bien, le peuple ne serait pas délivré de la puissance de Baal. Et Dieu ne pouvait pas et ne voulait pas agir avec sa puissance hein, pour libérer son peuple tant que ça continuait parmi le peuple. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que si nous voulons être spirituellement libérés de quelque chose, et je parle ici pour les chrétiens qui ont fait cette profession de foi, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, qui ont placé leur foi en lui pour le pardon de leurs péchés, il arrive par la suite que des chrétiens ont des luttes spirituelles, des difficultés à abandonner certains péchés dans leur vie, hein, à cause de leur faiblesse. Mais ce qu'on voit ici, c'est que on a tous des obstacles dans notre vie qui vont nous empêcher de pouvoir vraiment servir l'Éternel avec sa force et avec sa puissance. Et tant que nous les gardons et tant que nous les maintenons, ils deviennent des obstacles. Alors certains obstacles, ils empêchent tout. Certains obstacles vont ralentir, vont freiner, hein, vont empêcher de progresser à un bon rythme. Et donc, ici, hein, ce que Dieu demande à Gédéon, c'est la même chose qu'il nous demande à nous. C'est de nous débarrasser de tout ce qui fait obstacle à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Tout ce qui va entraver notre marche avec le Seigneur. Il y a un ordre, comme j'ai dit, qui est à la portée de Gédéon ici. Beaucoup de choses que l'Éternel nous demande d'accomplir, nous sommes capables de le faire. Il y a des choses où très certainement nous avons besoin de l'aide de Dieu pour accomplir ce qu'il nous demande de faire. Mais dans les deux situations, nous comprenons que même les choses que nous sommes capables d'accomplir, ce sont des choses qui nous viennent tout de même de Dieu. On en discutait aujourd'hui avec mon épouse hein, sur le fait que tout ce que nous croyons nous être, ce que nous sommes, etc., ce que nous estimons être notre valeur, nos capacités, etc., il n'y a rien de ce que nous sommes que nous n'avons reçu de quelqu'un d'autre. Je parlais du fait que, ben, en tant qu'enfant, on a bénéficié du patrimoine génétique de nos parents et de nos ancêtres, etc. On a reçu ça d'eux. On a reçu une éducation. On a reçu des enseignements. On a reçu des instructions. Et même les choses qui nous définissent peut-être même dans qui nous sommes en termes de travail et de carrière, etc., c'est toujours quelqu'un qui nous l'a enseigné. Et même au final, notre capacité d'apprendre, de pouvoir emmagasiner toutes ces informations, etc., c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés ainsi. Mais il faut comprendre qu'il y a des choses que Dieu nous demande de faire qui relèvent aussi de notre choix, notre décision de le faire, et nous en avons la capacité. Dieu n'a pas demandé ici l'impossible. Hein, l'ordre de Dieu était assez simple dans son exécution. Bien. S'il lui avait demandé, bah, tu vas traverser la mer Rouge en écartant l'eau. Comment je vais faire ça? Hein, si lui avait demandé hein, d'accomplir une chose extraordinaire et miraculeuse, etc. Alors bien sûr, je crois que nous-mêmes aussi, à la place de Gédéon, dans ces cas-là, on se dirait, mais comment je vais faire ça? Je ne sais pas faire ça, moi. Mais là, Dieu lui demande quelque chose que lui est en capacité de faire. Il lui demande quelque chose qui est nécessaire pour lui, pour sa famille, pour son peuple. Et pourtant, beaucoup de gens verraient ce même ordre que Dieu a demandé à Gédéon, ils le verraient pour eux comme quelque chose d'impossible. Je ne peux pas abandonner cette habitude-là. Je ne peux pas abandonner cette chose que j'aime tant. Je ne peux pas abandonner ces choses-là. C'est impossible. En vérité, c'est je ne veux pas, je ne peux pas signifie souvent plutôt je ne veux pas. C'est plus une question de capacité, c'est une question de volonté. Et là, Gédéon, il aurait pu dire, mais non, je ne peux pas faire ça, il s'agit de mon père quand même. C'est ma famille. C'est quand même terrible, c'est trop dur. Mais je crois que Gédéon, il avait aussi compris que l'Éternel était venu à lui. Il avait choisi lui comme être libérateur et il savait que l'Éternel hein, serait avec lui comme l'Éternel lui avait dit. Et à partir de ce moment-là, même ce que Dieu lui demande d'accomplir là, de détruire, d'éradiquer la cause de cette malédiction sur son peuple, Gédéon en était capable. Mais souvent, comme je disais, les raisons pour lesquelles on ne veut pas, c'est que notre volonté, elle est alimentée par l'amour que nous portons à ce qui doit être abandonné. Ou bien peut-être par la crainte de représailles, ou peut-être par les qu'en dira-t-on hein, de notre entourage. Mais quand on lit les Écritures, c'est ce que Dieu y demande. Hein, le concept même de la repentance, c'est de se retourner, d'abandonner ce que l'on fait. L'exemple de Lot et de sa femme, hein, qui a regardé en arrière. Pourquoi? Parce qu'elle était encore attachée à ces choses-là. Et beaucoup d'entre nous encore, nous sommes tellement attachés à ce qui nous traîne, ce qui nous fait ralentir dans notre vie spirituelle, alors que l'Éternel nous a dit, il faut que tu te débarrasses de tout cela. Et le fait est que nous en avons la capacité. Mais c'est d'abord une question de volonté. C'est une question de oui, Seigneur, je vais obéir. Donc Gédéon, par conviction, il fait ce que l'Éternel lui demande. Hein, cet ordre simple, un tout premier pas destiné à le préparer pour ce qu'il devait accomplir par la suite, c'était un ordre simple. Tout ce qu'il avait à faire, eh bien, c'était de suivre Dieu par la foi et d'abattre cette idole, ce pieu sacré, de bâtir un autel et d'y offrir un sacrifice. Dieu ici prépare Gédéon, donc à accomplir des choses qui, plus tard pour lui-même, seraient impossibles à accomplir, seul, sans la force de l'Éternel, sans la puissance de Dieu. Mais voilà, celui qui va être fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes, n'est-ce pas? Et quand l'Éternel éprouve la foi de Gédéon, c'est pour lui montrer aussi, tu es capable de faire cela. Mais maintenant, ce que toi tu es capable de faire avec ma puissance, on combine cela et tu verras ce que je vais pouvoir faire à travers ta vie. Lorsqu'on se montre fidèle dans les petites choses, Dieu, eh bien, nous confie des tâches plus importantes. Lorsque nous accomplissons ces tâches, eh bien, par sa grâce et par la foi, dans l'obéissance, eh bien, il nous conduit à accomplir des choses encore plus grandes. Et là, on voit justement notre vie prendre un sens encore bien plus grand lorsque l'on fait confiance à Dieu et lorsque l'on obéit à sa volonté. Mais comme j'ai déjà dit, notre problème, c'est ce manque de volonté. C'est souvent que nous ne faisons pas les petites choses qu'il nous demande de faire, les petites choses que on se dit, oh mais non, ça je suis pas capable, ou je n'en ai pas le temps, ou finalement, on ne laisse pas Dieu, eh bien, agir dans notre vie. Si on ne prend pas le temps de prier, si on ne prend pas le temps de lire sa parole et de la chercher à la comprendre, de la mettre en pratique, si on ne consacre pas notre vie à cette relation avec l'Éternel, si on ne consacre pas notre vie à suivre l'exemple de Christ, alors pourquoi et comment est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que Dieu agisse favorablement dans notre vie et de manière extraordinaire? La deuxième chose à noter, c'est que on voit l'obéissance de la foi ici. Au verset 27, Gédéon donc prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Donc là, la foi de Gédéon avait été mise en évidence. Sans hésiter, Gédéon, il fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais il fait appel à 10 de ses serviteurs pour l'aider. Il va démolir l'autel de Baal, il va le faire de nuit. C'est une obéissance qui est plutôt rapide, qui est totale à l'ordre du Seigneur. Je crois que si nous aussi, nous avions une telle disposition et un tel empressement d'accomplir ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, on pourrait faire des choses également extraordinaires. Mais c'est pas comme ça qu'on réagit la plupart du temps. Habituellement, comme tant d'autres, comme Moïse par exemple, nous trouvons des excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas le faire. Ou bien on peut être comme Jonas, de fuir cet appel de Dieu dans sa vie et de finir par désobéir. Mais voilà, on a une obéissance qui est mise en évidence et finalement, les villageois, le lendemain, ils font leur enquête. Alors soit ils ont réussi à soutirer les informations des serviteurs de Gédéon, soit il devait y avoir quand même quelques villageois qui ont entendu du oui, mais qu'est-ce qui se passe ici, et puis qui regardent, et qui n'osaient pas sortir, par peur que peut-être ces hommes s'en prennent à eux, peut-être que c'était les ennemis qui étaient là. Bref, le lendemain, ça se sait quand même. Le lendemain, les gens, ils voient le résultat de l'obéissance de Gédéon et de sa foi. Ils voient cette idole être détruite, renversée, ce pieu sacré, tout être brûlé, et là, un autel avec un sacrifice d'un taureau dessus. Et dans leur investigation, ils apprennent que Gédéon est celui qui a accompli à leurs yeux ce méfait. Mais ce verset 27 nous montre qu'il y avait quand même de la crainte chez Gédéon. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, mais il avait quand même peur. Combien d'entre nous, il y a plein de choses que Dieu nous demande de faire, et puis ça fait peur. Alors là, peut-être que Gédéon, il a montré un petit peu de sagesse et de discernement. Il dit, bon, on va faire ça de nuit, parce que même si on essayait de faire ça en plein jour, on serait arrêté tout de suite. Les villageois seraient tous là, et on n'aurait même pas la capacité d'aller sur cette idole et la renverser, etc. Gédéon, il savait que son père, sa famille, le reste du village seraient très certainement en colère contre lui et chercheraient à le faire mourir. D'ailleurs, c'est ce que les villageois veulent faire. Ils veulent mettre à mort Gédéon. Alors oui, Gédéon, il a certes peut-être agi avec cette peur, cette crainte de ce qui pourrait se passer, mais il a agi. Il a obéi. L'obéissance de Gédéon ne devrait pas donc être pointé du doigt parce qu'il a fait appel à 10 serviteurs. On n'a aucune indication de quel genre de monument idolâtre il s'agissait, de quelle taille la statue de Baal pouvait être. On n'a aucune indication de cela. Mais si moi je demandais à Sungalo, tu vas aller là où il y a un monument dédié à quelque chose et tu vas, un beau monument en pierre, et tu vas le détruire tout seul. Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, je vais regarder, peut-être je peux louer une pelleteuse, ou bien il me faudrait peut-être des pioches, ou peut-être un bâton de dynamite. Bon, on réfléchit aux manières dont on va pouvoir le faire. Pour Gédéon,
il est précisé verset 26 qu'elle est en bois.
Oui. C'est ça. Donc, il y a le bois de l'idole, et puis il y a ce mât. Bon, toujours est-il, c'était pas une mince une mince affaire hein, pour lui, à lui seul, d'accomplir cela. Mais face à cette crainte, il a quand même agi. Il a agi peut-être de manière, on va dire, plus humaine, qu'on se dirait un héros de la foi, il aurait pu dire « l'Éternel est avec moi hein, », comme David, et puis aller affronter Goliath. Mais s'il faut retenir, c'est qu'il a agi. Il n'a pas laissé la crainte l'arrêter, le stopper. Je crois qu'il est bon pour nous aussi d'avoir une opinion réaliste de nos capacités. C'est bon pour nous de savoir ce que nous sommes capables de faire et ce que nous sommes incapables de faire. Mais encore meilleur que ça, c'est le fait de savoir que Dieu, lui, il est capable. Il est le Dieu Tout-Puissant. Qu'il n'y a rien d'impossible avec lui. Que la victoire appartient au Seigneur, comme David l'avait dit à Goliath, justement. Notre devoir, notre responsabilité pour nous, eh bien, c'est d'agir. Même si c'est dans la crainte, mais d'agir. Et ce qu'on retient troisièmement, eh bien, ce sont les conséquences de cette foi obéissante. Hein, le verset 28, lorsque les gens de la ville se sont levés de bon matin, ils ont vu l'autel de Baal qui était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau qui était offert en holocauste. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et on répond, donc c'est Gédéon, ils vont voir Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Et verset 31, Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Lorsqu'on va agir par la foi, lorsqu'on va obéir à ce que Dieu nous demande de faire, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences ou des résultats hein, que cela va engendrer hein, dans notre vie. Il va y avoir des bonnes conséquences comme il peut y avoir de mauvaises conséquences. Mais ici, les actions de Gédéon ont quand même provoqué un certain tollé hein, au sein de sa communauté. Mais qu'est-ce qui était le plus important? Sa popularité, sa vie ou le fait d'avoir fait ce qui est juste et droit aux yeux de Dieu. Lorsqu'on sert l'Éternel avec fidélité, avec obéissance, on sait que Dieu, il est glorifié, il est honoré, mais ceux qui nous entourent, ceux qui n'ont pas reçu ce même appel que nous, ils vont pas comprendre nos motivations, ils vont pas comprendre pourquoi on a agi comme ça. Mais on va voir que toutes les actions que nous ferons pour l'Éternel, ça va susciter des conséquences. La première, oui, c'est l'hostilité des villageois. Quand ils constatent que leur idole, elle est à terre. Ils veulent mettre Gédéon à mort. Ils sont en colère. Quand nos actions en tant que chrétiens, et même nos propos, vont d'une manière ou d'une autre mettre en évidence le péché dans la vie de quelqu'un d'autre, on peut s'attendre à ce que ce soit mal pris. Personne n'aime entendre ce qu'il y a de mal chez lui, n'est-ce pas? Il n'a pas fallu longtemps pour que là, la réaction à l'obéissance et à la foi de Gédéon soit une réaction violente et que la populace veuille le faire périr. Je crois qu'il faut faire attention si on pense que en présentant l'Évangile, en partageant la parole de Dieu, en servant le Seigneur avec obéissance, et surtout quand notre obéissance, elle est visible, que les gens vont accepter cela, que les gens vont être heureux de ce que vous avez accompli. Il y aura des gens tout autour de nous qui ne vont pas comprendre. Il y aura de la famille qui va être blessée, qui va se sentir exclue. Il va y avoir des personnes non spirituelles hein, qui vont se sentir peut-être même quelque part menacées hein, par votre exemple et par ce que vous vivez. C'est une réaction qui est naturelle à cause du péché. David, il a fait face à l'opposition. Le Seigneur lui-même a fait face à l'opposition, Paul a fait face à l'opposition, et Il faut s'attendre à ce que lorsque nous allons être fidèles à l'Éternel, lorsque nous allons faire sa volonté, ça va déplaire à beaucoup de gens. Et il y aura de l'opposition. Mais au lieu de céder à ceux qui s'opposent à nous et à notre témoignage, nous devons nous attacher à suivre le Seigneur avec obéissance et avec fidélité. Et nous devons prendre cette décision de vouloir être fidèles. Peu importe ce que même les autres font autour de nous. Mais avec cette réaction et cette conséquence d'hostilité, on peut noter ici aussi qu'il y a quelque chose de vraiment improbable qui s'est produit. Une lueur d'espoir. Hein, au verset 31, lorsque Joas, à qui appartient cette idole, cet autel, lorsque le village se présente à lui pour demander la vie hein, de Gédéon, sa réaction, c'est quoi? Verset 31, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Vous savez, on peut dire, ben, oui, c'est son père, c'est son fils, c'est normal. Vous savez, il y a beaucoup de parents qui, malgré l'amour qu'ils peuvent avoir pour leur enfant, lorsque leur enfant va faire des choses qui sont contraires à leurs croyances et à leurs pratiques religieuses, ils peuvent avoir une réaction extrêmement négative. Relisez hein, les exemples et les témoignages de ces personnes dans les pays persécutés, nos frères et sœurs, hein, qui sont exclus de leur famille, qui sont battus, hein, torturés à cause de leur foi. Et même, on peut dire, oui, ça c'est dans des pays loin de chez nous, mais même dans notre pays, combien de frères et de sœurs ont été exclus de leur propre famille à cause de leur foi, à cause de leur témoignage. Alors oui, l'hostilité de la communauté envers Gédéon était assez importante pour que les villageois exigent sa mort, mais cette foule va être apaisée, ben oui, peut-être de manière improbable, par des paroles sages de la part de Joas, le père de Gédéon. En substance, qu'est-ce qu'il leur dit? Ben, si Baal est vraiment un dieu, qui vient se défendre lui-même, si Baal existe vraiment, il ne devrait pas avoir besoin de votre aide. C'est pas sans rappeler un peu la réplique hein, d'Élie le prophète hein, dans le premier livre des rois, hein, lorsqu'il se moque hein, des idolâtres hein, et qu'il dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Hein, » On retrouve un peu cette même manière de voir la chose par rapport à ces faux dieux. Alors peut-être que oui, lorsque Gédéon a pris cette position d'obéissance, ça a déclenché une étincelle déjà. Une étincelle chez son père. Hein, lorsque Joas a vu la foi de son propre fils et l'incapacité de Baal à se protéger lui-même puisque l'idole était renversée, l'autel était renversé, je pense que là, Joas, il a pris pas position pour Gédéon. Il n'a pas non plus simplement pris position contre Baal. Je crois qu'il a pris position pour l'Éternel également. Alors oui, dans notre vie, lorsque l'on va obéir à la volonté de Dieu, peut-être que bon, les résultats, les conséquences ne vont pas être aussi terribles et hostiles que cela, vont pas peut-être être spectaculaires comme celles que l'on voit avec le père de Gédéon. Mais on sait que dans beaucoup de familles qui aujourd'hui, la majeure partie sont des chrétiens, qu'à la base, il y a une étincelle, qu'à la base, il y a un déclic. Et c'est ce déclic qui va amener d'autres à connaître le véritable Dieu et à venir à l'Éternel. C'est des choses que nous voyons dans la vie de plusieurs personnes, hein, et de voir, moi je peux prendre aussi l'exemple de mon père qui était le premier dans sa famille à venir au Seigneur, et par la suite d'autres sont venus au Seigneur. Mais quand on a des personnes qui sont fidèles, malgré l'opposition, eh bien Dieu peut faire changer les choses et amener des personnes à agir de manière totalement improbable. J'avais déjà peut-être partagé avec beaucoup de vous hein, le témoignage de mon papa que lorsque le Seigneur l'a appelé à le servir en tant que pasteur missionnaire, il avait dû annoncer à ses parents qu'il renonçait à ses études de droit et qu'il allait partir aux États-Unis pour étudier la théologie. Ses parents, tout simplement, ils l'ont déshérité. Ils lui ont dit, t'es plus notre fils. Tu ne t'attends pas à aucune aide de notre part. T'es tout seul. Et il a quand même obéi au Seigneur. Il a fait ce que le Seigneur lui a demandé et l'Éternel a pourvu. Mais quand il s'agissait pour mon père et ma mère de revenir en France et qu'ils n'avaient aucun endroit vraiment pour, on va dire, s'installer dès leur arrivée, eh bien, ce sont mes grands-parents, ceux qui avaient renoncé à leur fils, qui l'avaient déshérité, ce sont eux qui les ont accueillis pendant plusieurs mois. Donc oui, Dieu, il est capable de toucher les cœurs et de transformer ceux qui semblent comme être des cœurs de pierre et de permettre des choses aussi improbables que celles-ci. Mais ce que l'on voit, c'est que, comme pour Gédéon et comme pour nous, lorsque Dieu va ainsi éprouver notre foi, c'est pour nous enseigner et nous préparer à quelque chose de bien plus grand par la suite. Hein, par cette épreuve, Dieu il a donné à son serviteur l'expérience qui lui manquait. Hein, l'action, faire face à l'opposition, hein, de ne pas savoir quelle serait la réaction de sa famille, etc. Mais avant d'agir par la foi, et même dans la crainte, bah, tout ce que Gédéon savait, c'est que, un, le Seigneur l'appelait à le servir, que il serait là, présent avec lui. Et ça, c'est la leçon hein, que Gédéon lui a appris. Dieu marcherait avec lui, Dieu le protégerait, et Dieu donnerait la victoire. Et c'est cette certitude qui lui a été utile par la suite pour accomplir les tâches plus grandes que le Seigneur lui a confiées. Tout ce que Dieu, effectivement, va permettre dans notre vie, c'est une expérience d'apprentissage. À la fois pour nous montrer ce que nous sommes capables de faire, ce que nous ne sommes pas capables de faire, et qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et on prend tout ça ensemble. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ça, c'est la leçon. Ça, c'est l'apprentissage de Gédéon et pour chacun d'entre nous. Dieu, il a œuvré dans la vie de Gédéon pour former une tâche, le former à une tâche immense. Dieu veut agir dans notre vie aussi. Il veut nous enseigner. Il veut nous voir progresser. Il veut nous préparer parce que avec lui, eh bien, nous sommes rendus capables de bien plus de choses que nous pensons ou imaginons pouvoir faire ou ne même pas pouvoir faire. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui nous retient à suivre la volonté de Dieu, s'il y a une idole dans notre vie, un obstacle, quelque chose auquel nous sommes trop attachés, et nous savons que ça et une vie pleine et entière pour le Seigneur, c'est pas compatible, mais qu'on est toujours attaché à ça. Je crois que la leçon ici, pour nous, c'est que c'est une question de nous de décider de cela. Pour Gédéon, il a pris cette décision d'obéir à l'Éternel. Il a pris cette décision de faire quelque chose qui allait ramener les villageois, très certainement, à avoir une très mauvaise opinion de lui, mais aussi de toute sa famille. Y a-t-il une peur, peut-être, qui nous retient d'accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment disposés hein, et prêts à nous soumettre à l'Éternel s'il nous appelait à son service? Peu importe. Ce que Dieu veut avant tout voir dans la vie de chacun de ses enfants, eh bien, c'est cette volonté de se soumettre à la sienne. C'est que notre volonté, elle vienne s'aligner à la sienne. Que notre volonté où, eh bien, moi je veux vivre ma vie, moi je me fais mes objectifs de vie, moi j'aime encore ça, je veux pas le lâcher. Ça va rendre, on va dire, impossible pour nous, de voir Dieu agir. Dieu veut le faire, et comme Dieu nous accorde ce libre arbitre, il ne va pas non plus forcer les choses. Mais si nous, on s'obstine à maintenir ces choses dans notre vie, on ne peut pas s'attendre à voir Dieu répondre à nos prières de manière favorable. On ne peut pas s'attendre à Dieu de nous montrer clairement ce qu'il attend de nous tant que nous n'avons pas délaissé et abandonné toutes ces choses. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge lui-même de sa croix et qui me suive. Je crois que ça, c'est les leçons que nous voyons même ici dans la vie de Gédéon. Qu'est-ce que nous sommes prêts à abandonner pour suivre l'Éternel ? Prions. Père, nous te remercions pour cet exemple de Gédéon et nous te remercions pour, oui, les choses que tu permets dans notre vie où tu nous montres ce que nous sommes capables de faire et d'accomplir, où tu veux voir notre obéissance et nous montrer que avec toi, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Mais avant tout cela, nous comprenons aussi que nous ne pouvons pas servir de maître. Nous ne pouvons pas avoir un objectif de vie de vouloir t'honorer, te glorifier, tout en maintenant dans notre vie les choses qui te déshonorent. Et Seigneur, je prie pour moi-même, je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que, eh bien, tu nous accordes la force, tu nous accordes le discernement de voir encore dans notre vie ce qui a besoin d'être abandonné, ce qui a besoin d'être changé, transformé par toi. Et Seigneur, que nous puissions nous conformer à ta volonté, une volonté qui est bonne, agréable et parfaite, une volonté que tu as prévu, Seigneur, pour nous de bonnes choses, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Seigneur, aide-nous à voir cet exemple de Gédéon, avec une foi où, oui, il y avait de la crainte, il y avait de la peur, mais c'est une foi qui a obéi. Et Seigneur, que nous puissions ainsi obéir, même si nous pouvons avoir peur parfois de parler de toi autour de nous, peur de prendre position quand d'autres veulent nous faire suivre leur exemple de vie pécheresse ou nous pousser vers le péché. Seigneur, que notre foi, notre obéissance soit plus grande que notre peur. Et Seigneur, merci encore une fois pour cet exemple de Gédéon, et merci pour ta parole qui ne cesse de nous enseigner, de nous émerveiller. En nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.